VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, il est 17h30 en temps universel, 13h30 ici à Washington, le monde aujourd'hui, édition du lundi 4 septembre 2017, et Kabadou en direct du studio 9 de la Voix de la VOA Afrique. Au sommaire ce soir, réunion d'urgence du Conseil de sécurité pour parler du dernier essai nucléaire nord-coréen. L'ONU demande à la Cour pénale internationale d'enquêter sur des crimes contre l'humanité commis par les autorités au Burundi. La décision de la Cour suprême du Kenya d'annuler la présidentielle, saluée par Alpha Condé, le président de l'Union africaine. En Angola, la Commission nationale électorale rejette catégoriquement les accusations de l'opposition qui dénonce des irrégularités au scrutin du 23 août dernier. Et puis nous retrouverons Yacouba Ouadréhougo pour les sports et Blanche Sanou pour la Minute Éco. Mais tout d'abord, le journal. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni ce lundi en urgence pour parler du dernier essai nucléaire nord-coréen au moment où la Russie appelle au dialogue tout en critiquant les États-Unis. Les précisions de John Hinden.
On pourrait influencer la Corée du Nord si on faisait des propositions de dialogue réalistes, a affirmé le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Ryabkov, déplorant l'attitude belliqueuse des États-Unis. Le dernier essai nucléaire nord-coréen peut aussi être perçu comme une façon de faire pression sur la Chine pour qu'elle pousse Washington à ouvrir le dialogue avec Pyongyang. Le géant asiatique, destinataire de 90% des exportations nord-coréennes, reste dans le collimateur du président américain qui lui enjoint de faire davantage pression sur son turbulent voisin. M. Trump a menacé de suspendre les relations commerciales avec les pays qui font des affaires avec la Corée du Nord. Au Conseil de sécurité de l'ONU, un projet de résolution sur de nouvelles sanctions va être négocié et mis au vote dans une semaine, a annoncé l'ambassadrice américaine auprès des Nations Unies, Nikki Haley. La France, la Grande-Bretagne et le Japon sont favorables à de nouvelles sanctions. La position de Pékin et Moscou n'est pas connue.
Le président américain Donald Trump durcit encore un peu plus le ton en matière d'immigration. Il aurait décidé de mettre fin, avec un délai de grâce de 6 mois, à un programme qui permet à des centaines de milliers de jeunes immigrants clandestins de rester aux États-Unis. C'est ce que révèle le site d'information Politico. Le président américain devrait s'exprimer sur le sujet demain. La justice française vient de condamner pour la deuxième fois en moins de 6 mois le représentant de l'État dans les Alpes-Maritimes pour avoir interpellé 3 migrants qui se rendaient à Nice pour les formalités de leur demande d'asile. Il s'agit de 3 Somaliens soutenus par l'association de défense des migrants Roya Citoyenne à la frontière franco-italienne qui avait filmé et mis en ligne une vidéo à ce énième épisode de la guerre que se livrent les migrants associatifs et les pouvoirs publics sur la question de l'accueil des migrants. Des enquêteurs de l'ONU demandent à la Cour pénale internationale d'enquêter sur des crimes contre l'humanité et autres atrocités commis par les autorités au Burundi. Abdourahmane Dia.
Selon le président de la commission d'enquête de l'ONU sur le Burundi, ces crimes ont été perpétrés dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique contre la population civile, avec la connaissance d'une telle attaque. Fatsa Ruggerzouz dénonce du coup des actes qui rentrent dans le cadre d'une politique de l'État burundais. La commission indique avoir des motifs raisonnables de croire que plusieurs de ces violations constituent des crimes contre l'humanité. Elle pointe du doigt les membres du Service national de renseignement, de la police, de l'armée, ainsi que des Imbonerakure, la jeunesse du parti au pouvoir. Le Burundi a notifié à l'ONU sa décision de se retirer de la CPI le 27 octobre 2016, ce qui veut dire que la CPI a jusqu'au 27 octobre de cette année pour ouvrir une enquête de son propre chef. Passé cette date, seul le Conseil de sécurité de l'ONU pourra faire appel à l'institution internationale.
Sur la même question, vous entendrez l'analyse de Louis Michel, l'ancien ministre belge des Affaires étrangères, dans la partie magazine. Hier, Félix Tshisekedi, leader de l'opposition République démocratique du Congo, a vécu un retour tendu à Kinshasa, où les autorités avaient interdit la veille un meeting de sa force politique. Félix Tshisekedi est le fils du défunt opposant historique Étienne Tshisekedi, l'un des principaux opposants au président Joseph Kabila. À Bounia, dans le nord-est de la République démocratique du Congo, 8 personnes ont été tuées par la foudre dans une mine d'or artisanale. Ce type d'accident est fréquent dans cette région, à la frontière du Soudan du Sud. Une nouvelle évasion en Côte d'Ivoire. Hier, 96 prisonniers se sont évadés de la prison de Katiola, dans le centre du pays, à 45 km au nord de Boaké. La question de la sécurité est brûlante en Côte d'Ivoire depuis le début de l'année, après des mutineries dans l'armée et une série d'attaques contre des postes de police et de gendarmerie. Nous y reviendrons dans notre partie magazine. Le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, est en visite en Libye. C'est un signal de l'engagement de la France, du président Macron, dans la volonté de contribuer à la résolution de cette crise. Propos du chef de la diplomatie française aux côtés de son homologue libyen à Tripoli. La France espère ainsi contribuer à une meilleure stabilité pour ce pays riche pétrolier, livré au chaos depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2011.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Deux personnes ont été enlevées tôt ce matin dans un village du nord du Burkina Faso. Les assaillants munis de Kalachnikov se seraient dirigés vers le Mali. Selon les forces de sécurité, il s'agirait d'un règlement de compte et non d'un acte terroriste. La Cour suprême du Kenya vient d'annuler la présidentielle et ça continue de susciter des réactions sur le continent. C'est une décision qui honore l'Afrique, a déclaré ce lundi le chef de l'Union africaine, le président guinéen Alpha Condé. Nathalie Barge.
C'est un comportement qui honore l'Afrique et prouve que désormais la démocratie s'installe sur le continent, a indiqué Alpha Condé dans un communiqué en réaction à l'annulation vendredi du scrutin présidentiel kényan du 8 août. L'Union africaine apprécie l'esprit de maturité et de responsabilité de tous les acteurs du processus qui ont préféré les voies légales à la violence, a poursuivi M. Condé, soulignant que l'organisation appelle à nouveau le peuple kényan et les acteurs politiques à la retenue et au sens de la responsabilité dans l'organisation d'un nouveau scrutin présidentiel dans les 2 mois. Saisie par l'opposant Raila Odinga, la Cour suprême a relevé vendredi des irrégularités dans la transmission des résultats et invalidé la victoire du président sortant Uhuru Kenyatta, crédité de 54,27% des voix, dont l'annonce s'était accompagnée de manifestations et d'émeutes violemment réprimées par la police, faisant au moins 21 morts.
Les suites concernant l'incendie de samedi dans un lycée pour filles de Nairobi, le ministre kényan de l'éducation, Freddy Matiang'i, vient d'annoncer à la presse qu'il s'agit d'un acte criminel et non d'un accident. Selon un nouveau bilan, 9 lycéennes ont péri dans ce drame. La Commission nationale électorale angolaise rejette catégoriquement les accusations de l'opposition qui dénonce des irrégularités lors des élections générales du 23 août dernier, remportées par le parti au pouvoir depuis 1975. Bagassi Koura.
Les partis qui dénoncent les résultats sont de mauvaise foi et cherchent à décrédibiliser le processus électoral angolais. Propos très durs du président de la commission électorale, André Da Silva Neto, lors d'une conférence de presse à Luanda. Tous les outils électroniques utilisés dans le processus électoral ont été vérifiés, a-t-il encore assuré, ajoutant que l'ensemble du processus avait été légal. 4 partis d'opposition angolais ont exigé hier un recomptage des bulletins, jugeant irréguliers les résultats. Les chefs de l'opposition ont affirmé avoir constaté la disparition d'urnes, l'apparition de nouvelles urnes, la disparition de bulletins de vote et la présence illégale d'individus étrangers au processus lors du dépouillement. Le parti au pouvoir depuis l'indépendance de l'Angola en 1975, le MPLA, a été crédité par la CNE de 61,1% des suffrages et d'une majorité absolue de 150 des 220 sièges au Parlement, selon un décompte portant sur 97% des bureaux de vote.
Il est clair que la Turquie ne doit pas devenir un membre de l'Union européenne, a déclaré la chancelière allemande hier soir lors du seul débat télévisé avec son rival social-démocrate Martin Schulz. La réponse de la Turquie n'a pas tardé. Le porte-parole du président turc Recep Tayyip Erdogan a reproché à Angela Merkel un manque de vision et une soumission au populisme. Madame Merkel a d'ailleurs conforté son statut de favorite pour se succéder à elle-même aux élections du 24 septembre prochain. Et puis un nouveau livre apparaît mercredi intitulé « Sexe et mensonges, la vie sexuelle au Maroc » paru aux éditions Les Arènes, risque de faire polémique. Il y a moins de 3 semaines, la diffusion d'une vidéo montrant une agression sexuelle collective d'une grande violence à l'encontre d'une jeune femme dans un bus à Casablanca avait ému de nombreux Marocains. Convaincus que les droits sexuels font partie des droits humains, la romancière franco-marocaine Leïla Slimani, prix Goncourt 2016, montre dans ce livre de témoignages combien cette reconnaissance d'une sexualité libre est toujours un combat pour les Marocaines qui se disent fréquemment victimes d'insultes, de remarques désobligeantes et autres agressions sexistes dans les espaces publics. Je vous rappelle donc les titres de ce soir. Il y avait donc réunion en urgence du Conseil de sécurité pour parler du dernier essai nucléaire nord-coréen. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
L'Allemagne a octroyé au Cameroun une aide de 89 milliards de francs CFA dans le cadre d'un accord de coopération technique et financière. D'après APA News, la première enveloppe de 66 milliards servira à la gestion durable des ressources naturelles, la gouvernance et la décentralisation, le développement rural, la santé et les travaux publics. L'enveloppe restante de 23 milliards permettra de combattre la mortalité infantile dans la région de l'Est, ainsi que les 3 régions septentrionales du Cameroun. Entre 2015 et 2016, la Chine est le pays qui a le plus investi en Afrique, à hauteur de plus de 38 milliards de dollars, rapporte l'agence Ecofin. Les Émirats arabes unis ont injecté plus de 14 milliards, ce qui leur donne la seconde position. L'Italie est devenue le premier investisseur européen en Afrique avec plus de 11 milliards et surclasse les États-Unis qui ont légèrement dépassé 10 milliards. Rome a créé un fonds d'investissement baptisé Africa Act pour accompagner et accélérer cette dynamique africaine. La bourse sud-africaine a connu une hausse en août 2017, soutenue par les solides performances des sociétés minières. Selon l'agence Ecofin, le Johannesburg Stock Exchange, l'indice regroupant toutes les sociétés de cette place financière, a évolué de 2,4% sur la période, terminant le mois sur un rendement positif de 11,7% depuis le 1er janvier 2017.
Vous écoutiez Blanche Sanou pour la Minute Éco sur VOA Afrique. Et c'est maintenant l'heure des sports avec Yacouba Ouadréogo. Bonsoir.
Bonsoir Ika, bonsoir à tous.
Alors direction Yaoundé pour commencer. Les Lions indomptables sont dans la difficulté et c'est très dur pour leur survie dans les éliminatoires du Mondial de Russie 2018.
Tout à fait Ika, à quelques 3 minutes de la pause, le score est de 1-0 pour le Nigeria. Depuis la 30e minute, grâce à un but signé Moses pour le Nigeria bien sûr, auteur d'une prestation exceptionnelle vendredi 4-0 à Uyo, les Sapeurs Huguels sont bien partis pour être sûrs d'être qualifiés pour l'issue 2018. Dans ce même groupe, la Zambie sera en Algérie demain pour le compte de la 4e journée. Les Fenech veulent finir la tête haute ces éliminatoires, eux qui ont été défaits 3-1 samedi dernier par les Chipolopolo.
Assure également ce soir Libye-Guinée à 19h en temps universel.
La rencontre va se dérouler à Monastir en Tunisie en raison de l'interdiction des chevaliers de la Méditerranée de jouer à domicile. Le Sili l'avait emporté à l'aller dans la douleur 3-2. Guinéens et Libyens sont respectivement 3e et 4e du groupe A.
Dans la même poule A, demain, la RDC reçoit la Tunisie pour tenter de recoller avec la tête du groupe.
Tout à fait, les Léopards n'ont pas d'autre choix que de gagner s'ils veulent reprendre la tête du groupe ou à défaut recoller avec la Tunisie qui totalise 9 points alors que la RDC reste à 6 points après sa défaite samedi dernier 2-1.
Choc retour du duel ouest-africain à Ouagadougou demain entre le Burkina et le Sénégal.
0-0 au match aller à Dakar. Tout reste possible dans ce groupe D, dominé par le Burkina, 5 points, mais rien n'est encore fait, nous dit Charles Kabouré, capitaine des étalons, au micro VOA Afrique de Zoumana Wonogo, notre correspondant à Ouagadougou.
On est sur la bonne voie. Il reste 3 matchs. Et si on gagne ce match contre le Sénégal, qui est le favori du groupe, ça serait une bonne chose pour le moral déjà et pour aborder les autres matchs à venir contre l'Afrique du Sud et le Cap-Vert. On a l'avantage du terrain, du public et faut continuer à être solidaire et être conquérant. Je pense que il y aura des occasions pendant le match et il faut être fier devant le but et bien défendre.
Charles Kabore, capitaine des Étalons. D'autres matchs également ce mardi. L'Afrique du Sud reçoit le Cap-Vert à Durban, l'occasion de reprendre sa revanche après la défaite 1-2 à Praia. L'Égypte va essayer de reprendre seule la tête du groupe E lors de la réception de l'Ouganda, pendant que le Ghana cherche sa rédemption à Brazzaville devant le Congo.
Et enfin la Côte d'Ivoire également attend le Gabon à Boaké pour confirmer le succès. Merci, merci beaucoup Yacouba. À bientôt.
À bientôt.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours sur VOA Afrique et vous écoutez Le Monde aujourd'hui présenté par Ekia Badou. Cap à présent au dossier du jour et on commence par le Rwanda où un jeune entrepreneur dans la protection de l'environnement veut transformer les destructeurs de la nature en protecteurs. Il a créé une coopérative de biodiversité et de lutte pour la protection de l'environnement. Ange Umanishimwe emploie actuellement 800 jeunes pour la cause de la nature. Cet activiste environnementaliste souhaite que l'éducation environnementale soit intégré dans le programme scolaire des pays africains et plaide pour que les pays industrialisés soutiennent financièrement les pays ne polluant pas l'atmosphère. Charlie Kaziraka nous le présente.
À 32 ans, Ange Imanishimwe, en 2012, il est couronné meilleur novateur dans son pays natal, le Rwanda, grâce à sa coopérative Biocoop, créée la même année et servant dans la conservation de la biodiversité et de l'environnement autour du parc des Nyungwe.
Il y avait beaucoup de braconnage, c'est un problème.
Parmi ses premières missions, c'est de transformer les braconniers en protecteurs de la flore et de la faune du parc des Nyungwe.
J'avais un rêve de transformer la vie de la population autour de la forêt naturelle de Nyungwe, faire des qui peuvent transformer les braconniers en protecteurs de l'environnement. C'est une mission que j'ai vraiment réussi parce que l'organisation que j'ai mise en place a donné les emplois à 800 personnes.
Rempli d'enthousiasme, ce jeune entrepreneur rwandais veut que l'éducation sur la protection de l'environnement soit donnée aux enfants dès le bas âge.
Qu'il est nécessaire d'enseigner, même à commencer par les enfants, que le changement climatique est un grand problème et tout le monde est concerné.
L'objectif n'est pas atteint. Aujourd'hui, Ange Imanishimwe compte élargir ses idées dans 10 autres pays africains.
Et j'ai commencé à collaborer avec les Yari Fellows dans des autres pays comme le Burkina Faso, le Kenya, pour connecter la jeunesse à l'environnement et de donner les emplois dans le domaine de l'environnement aux jeunes.
Ange Imanishimwe pense qu'il y a une certaine injustice dans ce que pouvait revenir à l'Afrique par rapport aux pays industrialisés qui polluent plus l'atmosphère selon lui. En été 2015, il a été parmi les 500 jeunes et leaders africains invités aux États-Unis dans le cadre du programme Yali et il a eu la chance de poser une question à l'ex-président américain Obama. Il se souvient bien de la réponse.
Et il a dit que ce que les États-Unis d'Amérique vont faire, c'est de voir la stratégie d'aider les pays africains, mais aussi d'aider les autres pays. On doit continuer à convaincre le président Donald Trump que les États-Unis d'Amérique peuvent respecter les agréments de Paris. Parce que je vois que c'est très important.
Il est aujourd'hui parmi les jeunes modèles issus au Rwanda. Ange Imanishimwe partage son expérience dans une grande université des États-Unis. Il en est fier.
L'université de Yale est parmi les 5 premières universités au niveau international. Alors, le fait que je suis né au Rwanda, je suis né dans la province du Sud, et je pense que je peux dire tous les jeunes que c'est très possible.
Le Rwanda est aujourd'hui un modèle parmi ces pays qui accompagnent l'entrepreneuriat de jeunes dans la technologie et l'agriculture, et ces deux domaines sont parmi ceux qui propulsent actuellement l'économie de ces petits pays d'Afrique avec 11 millions d'habitants. Charlie Kasereka, des retours de Kigali pour VOA Afrique.
VOA Afrique, à Kigali, au Rwanda, sur 104.3, 24h sur 24.
Au Gabon, une mesure fait beaucoup de bruit. L'opposant Jinping et certains de ses proches ont été interdits de sortie du territoire. Les autorités les accusent d'avoir tenu des propos séditieux et de menacer l'ordre public. L'ancien candidat à la présidentielle de l'an dernier continue de rejeter les résultats du scrutin, ayant donné la victoire au président Ali Bongo. Pour analyse, Abdourahmane Dia a joint Libreville Marcona, un des leaders de la société civile gabonaise.
La décision arbitraire de réduire la circulation des personnes qui se disent opposées au système est une décision non seulement qui viole la Constitution, mais qui viole les éléments fondamentaux des droits de l'homme, des droits de la personne. Je crois que la Constitution de notre pays consacre la liberté d'aller et de circuler. Sauf décision du procureur de la République, sauf si vous êtes condamné à rester au pays. C'est un jugement du tribunal qui vous contraint de rester au pays.
Marcona, vous avez vous-même été victime d'une telle mesure dans le passé. Comment est-ce que vous l'avez combattue?
Ben, je l'ai combattue tout simplement par des voies judiciaires, parce que une violation des libertés fondamentales n'est pas négociable. On ne négocie pas avec ça. J'ai été en justice, le ministre de l'Intérieur de l'époque, André Mbaoban, et puisqu'il y avait une jurisprudence par rapport à un opposant qui avait été interdit de sortir du territoire par l'armée israélienne, la justice gabonaise s'est saisie de cette jurisprudence et nous donnait raison. Et moi, je pense que même si dans nos pays, on estime que la justice, les magistrats sont corrompus, je crois qu'il y a des libertés, il y a des éléments qui ne devraient pas être négligés. Parce que si aujourd'hui ce sont les opposants qui ont une interdiction de sortie du territoire, ben, ils vont continuer à. La dictature de l'Ibélie va continuer à sévir sur n'importe quel citoyen.
Vous pensez que les opposants qui ont été visés par cette mesure doivent, comme vous, saisir la justice?
Bien sûr, les victimes de cette injustice doivent saisir le tribunal, puisqu'il y a une jurisprudence, et on va voir si les magistrats gabonais peuvent se déjuger. À partir du moment où une telle décision avait été prise et que les victimes ont eu gain de cause au niveau du tribunal, je vois mal pourquoi le même tribunal, les mêmes magistrats ne vont pas s'appuyer sur toutes les jurisprudences qu'il y a eu par rapport à ces mesures d'interdiction de sortie du territoire, et que ce soit par un certain nombre de personnes qui ne partagent pas les avis des dictateurs au pouvoir au Gabon.
Pour cette fois-ci, les autorités accusent Jean Ping d'appeler à l'insurrection.
Mais sauf qu'ils n'ont jamais présenté un document officiel au niveau de la police de l'air et des frontières qui atteste effectivement que cette notion, cette accusation est fondée.
Marc Onah, un des leaders de la société civile gabonaise, au micro d'Abdourahmane Dia.
Salut, c'est Nathalie Barge. Juste un petit mot pour vous inviter à participer à l'émission interactive À votre avis, à 18h temps universel, ce lundi sur VOA Afrique. Vous sentez-vous concerné par les menaces nucléaires de la Corée du Nord? Que pensez-vous de la nouvelle course à l'armement au plan mondial? Pour participer, laissez vos numéros et commentaires sur la promo de notre page Facebook ou appelez en direct au 001 202 205 26 33. 001 202 205 26 33. À tout à l'heure sur VOA Afrique.
Faut-il déployer des enquêteurs de la CPI au Burundi? Ce lundi, les Nations Unies lancent un appel à la Cour pénale internationale pour qu'elle enquête sur des crimes contre l'humanité commis selon elle par les autorités au Burundi. Réaction immédiate à Bujumbura qui dénonce un complot occidental qui restera sans effet. Écoutez ce qu'en pense Louis Michel, ancien ministre belge des Affaires étrangères et responsable humanitaire de l'Union européenne, au micro de Bagassi Koura.
Il est impensable de laisser Nkurunziza continuer son œuvre de tyran. Il y a eu des morts, on a fait disparaître des jeunes et ça continue. En fait, c'est la terreur au Burundi. C'est absolument scandaleux. La vérité, c'est que Nkurunziza veut absolument mettre à mal, il l'a déjà fait d'ailleurs, les accords d'Arusha. J'étais, moi, aux accords d'Arusha avec Clinton et Mandela. Donc je sais parfaitement ce qu'il y a dans ces accords. Et aujourd'hui, M. Nkurunziza ne veut plus respecter ces accords. Il veut avoir absolument les coups d'œil franches et toute la liberté voulue pour asseoir, je dirais, éternellement son pouvoir. C'est absolument scandaleux et je crois que la communauté internationale, les Nations Unies, ont raison d'exiger maintenant, il faut être extrêmement ferme, qu'il y ait une véritable enquête sur ce qui se passe avec les droits de l'homme au Burundi aujourd'hui.
Bujumbura parle de complot des Occidentaux.
Vous savez, M. Nkurunziza, moi j'ai déposé une résolution naturellement dénonçant ces agissements au Parlement européen. Il s'est permis d'envoyer une lettre au président Schulz à l'époque pour qu'il me rappelle à l'ordre. Vous imaginez quelle conception de la démocratie M. Nkurunziza a. Il n'y a pas de complot de la communauté internationale. Il y a simplement que la communauté internationale assiste moi je trouve, de manière un peu trop passive à ce qui se passe au Burundi. Monsieur Nkurunziza recrée les conditions d'un génocide au Burundi. Et je pèse mes mots. Alors moi, je ne souhaite pas que la communauté internationale doive assumer la responsabilité morale qu'elle a dû assumer, qu'elle assume encore aujourd'hui, en étant passif par rapport à ce qui s'est passé, si vous vous rappelez, en 94 au Rwanda. J'ajoute d'ailleurs que l'Union africaine aussi devrait être un peu plus active dans le sujet. Ça la concerne au premier chef. Aussi. Et donc, s'il y a bien une mesure que je soutiens, c'est celle-là.
Alors, en ce moment, le processus du dialogue est en panne. Comment vous voyez la sortie des crises, alors?
Bien sûr qu'il faut relancer le dialogue. Mais pour faire le dialogue, il faut être à plusieurs. On ne peut pas faire le dialogue tout seul. Et Nkurunziza n'a en fait qu'une seule visée. C'est de faire semblant qu'il y a un dialogue. Il n'y a pas de dialogue. Il ne veut pas de dialogue. Donc, il faut lui imposer un dialogue. Et je pense que, par exemple, en lui coupant des soutiens, c'est déjà fait au niveau de l'Union européenne, puisqu'on continue à financer des projets humanitaires, mais il ne bénéficie plus, par exemple, d'aide budgétaire directe. Donc il faut absolument lui mettre une pression maximale pour qu'il comprenne que la seule voie de sortie, c'est le dialogue.
Louis Michel, au micro de Bagassi Koura. La communauté internationale continue d'envisager la meilleure réponse à donner au sixième essai nucléaire de la Corée du Nord. Washington veut des sanctions plus contraignantes, sans écarter ce que le Pentagone appelle une réponse militaire massive en cas de menace directe contre les États-Unis ou les alliés dans la région. Pour un éclairage, Gaby Dorsil a joint l'ambassadeur Herman Cohen, analyste politique.
Bien sûr, il y a un risque de guerre. C'est une situation très dangereuse. Le régime de Corée du Nord est tout à fait autoritaire. Il y a un dictateur, un seul homme. Nous ne connaissons pas beaucoup ce monsieur, un jeune. Est-ce qu'il est fou? Est-ce qu'il est intelligent? Quelles sont ses motivations? Donc, avec tous ces points d'interrogation, ça commence à être menaçant pour la région et pour nous.
Par contre, on a entendu la réaction de Vladimir Poutine, d'Emmanuel Macron, d'Angela Merkel. On ne voit vraiment pas d'appétit pour l'option militaire.
Personne ne veut ça, même les Américains, parce qu'on peut envoyer des bombes sur Corée du Nord, mais ils peuvent faire beaucoup de dégâts dans la région. Par exemple, il y a la ville de Seoul, dans Corée du Sud, qui est à 50 kilomètres de Corée du Nord. Ils peuvent envoyer des bombes sur sol, ils peuvent tuer des millions de gens. Donc, pour la guerre, il faut vraiment être attaqué d'abord.
L'ambassadeur Nikki Haley a réclamé aujourd'hui aux Nations Unies des sanctions vraiment fortes. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour faire plier Pyongyang?
Le pays qui a beaucoup de pouvoir sur Corée du Nord, c'est la Chine. La dernière sanction, c'était de refuser d'acheter le charbon, qui est important parce que Corée du Nord gagne 1 milliard de dollars par an avec la vente de charbon en Chine. La Chine peut aussi couper le pétrole.
Pourquoi Pékin ne fait-il pas davantage?
Ça, c'est une grande question. D'abord, Pékin ne veut pas que Corée du Nord, que le gouvernement de Corée du Nord tombe. La Chine ne veut pas que la péninsule de Corée soit unifiée sous la direction des gens de Corée du Sud, parce que ça veut dire que les Américains seront sur la frontière de Chine.
Et selon Séoul, Pyongyang préparerait maintenant un autre essai nucléaire. Alors, que va-t-il se passer? À quoi faut-il s'attendre? Qu'est-ce qu'il reste à Washington comme option, vraiment?
Écoutez, je vais vous donner ma solution à moi. Il faut demander à la Chine et la Russie d'organiser une conférence avec nous, le Japon, Corée du Sud, Corée du Nord, pour trouver une solution. Et je crois que la solution, c'est que la Corée du Nord veut un traité de paix.
Mais cela pourrait-il vouloir dire aussi accepter que la Corée du Nord soit une puissance nucléaire?
Je crois que oui.
Herman Cohen, analyste politique au micro de Gaby Dorsil. C'est la fin de cette édition du Monde Aujourd'hui, mise en onde par Lionel Gaïma. John Dryden était à la console, à la présentation et Kiabadou. Merci pour votre fidélité au programme de VO Afrique. L'actualité en continu, c'est sur la page Facebook de VO Afrique et sur voafrique.com. Je vous souhaite une excellente soirée. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur ondes courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.